France Culture. Bonjour et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, produit avec la collaboration d'Avril Ventura. Anna Holweck en assure la réalisation, Dalia, la prise de son. Aujourd'hui, nous vous proposons un grand entretien avec une grande autrice. Marie-Hélène Lafont est avec nous aujourd'hui, professeure de lettres classiques. Elle a connu un large succès auprès d'un public nombreux. Elle est également reconnue par de nombreux prix, tel le prix Renaudot en 2020 pour Histoire du Fils et le prix Renaudot des lycéens en 2001 pour Le Soir du Chien. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes née dans une famille de paysans dans la vallée de la Santoire. Beaucoup d'auditeurs vous connaissent, je pense. Peut-être ne savent-ils pas que vous avez été élève en pensionnat à Saint-Flour. Vous avez étudié à Paris, à la Sorbonne, pendant assez longtemps. Alors, pas que dans cette université, puisque vous avez obtenu un DEA à la Sorbonne Nouvelle et votre doctorat de littérature à l'université Paris Diderot. Vous êtes également agrégée de grammaire. Quand on est professeur de français, ça peut servir. Vous avez enseigné pendant bien des décennies, c'est d'ailleurs en 2024-2025 votre dernière année scolaire.
Tout à fait, donc j'enseigne encore, je persiste jusqu'au mois de juin.
Vous enseignez au présent. Alors on va commencer par s'intéresser par les premières transmissions de votre vie. C'est peut-être pas au départ à l'école que ça se passe, mais plutôt en famille. Qu'est-ce qu'on vous a transmis? Que vous rappelez-vous des premières années dans la ferme de vos parents? Qu'est-ce qu'on apprend quand on va pas en maternelle?
Ça, c'est une vaste question. C'est totalement insondable. Ça me demeure encore aujourd'hui très opaque. Quand je pense que j'entre donc au CP en septembre 1968, j'ai 6 ans. Je ne suis donc pas allée à la maternelle puisqu'il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Et je n'ai donc dans ma conscience d'enfant, je n'ai d'autre présence enfantine que celle de ma sœur et de mon frère. Nous n'avons pas de cousins, de cousines, et nos parents, pour diverses raisons, sont relativement isolés. Donc ça viendra par la suite, mais à cette époque-là, ils n'avaient pas d'amis qui étaient susceptibles d'avoir des enfants de notre âge. Bon. Donc, l'école a été un moment, une sorte d'explosion dans ma vie, une bonne explosion, hein, un bon séisme, mais une explosion. Et auparavant, je crois que j'ai dû arriver à l'école avec à la fois un trésor et aussi peut-être un poids comme ça à traîner de sensations extrêmement fortes. Quand on grandit dans une ferme, on grandit au contact avec les animaux, il y a des odeurs fortes, on voit des adultes qui sont au travail tout le temps. Il y a aucune distance entre le travail par exemple des parents dans une ferme et la vie des enfants. Vous voyez, on est de plein pied avec un univers de sensations très fortes. Et j'entre à l'école travailler au corps par toutes ces sensations très fortes. Mais l'école m'offre immédiatement un espace dans lequel je trouve place.
Vous aviez un grand désir d'école ou c'est cette rencontre avec vos professeurs et peut-être vos camarades qui a créé cette explosion?
Je suis incapable de vous dire si j'avais un désir d'école. Et je n'ai pas de témoignage, vous voyez. Il y a des familles dans lesquelles on va vous dire à 4 ans, tu lisais déjà sur les paquets de biscottes. Mmh. Bon, je n'ai pas de témoignage de ce genre-là. Ce que je sais, c'est que quand j'arrive à l'école, la maîtresse s'appelle Madame Durif. C'est sa dernière année. À cette époque-là, on prenait la retraite à 55 ans. Je me souviens extrêmement bien de ce qu'était cette femme physiquement. Je la trouvais très vieille, évidemment. Elle était bien plus jeune que je ne le suis aujourd'hui. Et cette femme qui n'était pas du tout, ça n'était pas du tout une institutrice, vous voyez, qui était dans l'affect ou qui dorlotait les enfants, pas du tout. Elle avait un côté très sec comme ça, mais qui me convenait parfaitement bien. Et j'entre dans une classe qui n'était pas une classe unique. elle avait, elle, dans sa classe, à la fois les enfants du CP auxquels elle apprenait à lire, mais elle avait aussi, on passait encore, ça devait être vraiment les dernières années, hein, le certificat d'études. Donc il y avait les grandes du certificat d'études. Et on était dans la même salle de classe. Et elle enseignait aux deux. Et, ce qui est d'un exotisme total, j'imagine, aujourd'hui, quand on était comme moi, c'est-à-dire une enfant qui venait des fermes, et donc pas du bourg, on était demi-pensionnaire. On mangeait à la cantine. La cantine, c'était merveilleux. Madame Andral nous faisait une cuisine extraordinaire et elle nous servait à manger dans sa grande pièce à vivre, en fait, avec sa fille. Et c'était comme une famille, mais en mieux. Et quand on avait fini de manger, merveilleusement, avec Madame Andral et sa fille, qui se prénommait Renée, on retournait à l'école et on ne devait pas être très nombreux, sans doute. Et quand il faisait froid ou autre, Madame Durif et son mari, ils nous prenaient avec eux dans leur appartement, au-dessus de la salle de classe. Donc, on montait, on était... Il y avait un chien, ils avaient un chien, je me souviens, ils avaient un chien. On jouait, enfin, c'était complètement paradisiaque. Voilà. Parce qu'il y avait à la fois, et j'avais sans doute des dispositions pour ça, il y avait à la fois, si vous voulez, des connaissances qui nous étaient transmises, et j'ai immédiatement aimé ça, voilà. Et en même temps, il y avait un environnement d'une douceur. Alors aujourd'hui, ça doit paraître monstrueux ce que je raconte, mais moi, ça m'a parfaitement convenu.
Pas monstrueux, merveilleux, et vous racontez extrêmement bien, Marie-Hélène Lafont. On va continuer sur l'école, mais est-ce qu'on vous a raconté des histoires quand vous étiez petite? Est-ce que ça parlait dans votre famille, d'histoires de famille, d'histoires du voisinage, non?
Non. Histoire du voisinage, probablement, parce que j'ai grandi donc en milieu rural. Et en milieu rural, on le sait très bien, on parle toujours des autres et les autres parlent toujours de vous. Sauf qu'il n'y a pas de voisinage dans la ferme où je grandis. La maison est complètement isolée. Et je crois que l'école, pour moi, de façon extrêmement merveilleuse, c'est la socialisation. C'est là que je vois d'autres enfants que mon frère et ma sœur, et que je découvre le bourg, que j'ai déjà traversé, bien entendu, hein, dont je connais l'existence, mais qui est à 3 kilomètres de la ferme. Et où donc une enfant de 6 ans ne va pas seule, vous voyez. Donc c'est un tout autre rapport au monde qui accompagne l'entrée à l'école. Et dans ma famille et dans les familles de paysans à cette époque-là, l'usage n'était pas du tout, par exemple, de lire des histoires aux enfants. Et la télévision, mes parents l'ont eue, ils l'avaient en mai 68, donc elle a dû arriver un peu avant. Mais dans mes toutes petites années, je ne me souviens pas du tout d'émissions à la télévision. Vous savez, ces émissions pour les enfants, là, Pimprenel et Nicolas, ou ce genre de choses.
Bonne nuit souvenir. Les petits.
Bonne nuit les petits. Ça, j'ai dû le voir ensuite, mais je n'en ai aucun souvenir. Donc j'ai l'impression, mais bon, c'est une reconstruction, d'être arrivée à l'école comme une sorte de territoire. Mon territoire mental était totalement vierge. Voilà. Et le monde se compose au sens musical du terme à l'école, puisqu'il se compose, et ça j'en garde un souvenir émerveillé, avec la syllabe, les mots, les phrases, qui sont dans des histoires que la maîtresse nous lit dans un livre. La maîtresse ne racontait pas, elle nous lisait une histoire dans un livre, avant de nous renvoyer dans nos foyers. Sans doute en milieu d'après-midi, je ne me souviens plus exactement à quelle heure ça se terminait. Elle se plantait devant nous, elle prenait un livre. Je serais incapable de vous dire ce qu'elle nous racontait. Je ne me souviens d'aucun récit en particulier. Je me souviens de l'acte, je me souviens du geste, de sa voix. Elle avait une voix, elle disait d'une manière très monocorde. Et je me souviens du livre. Et du corps du livre et du corps de la maîtresse sortaient des histoires. C'était complètement magique.
C'est intéressant parce qu'on a parlé récemment dans l'émission du film Apprendre de Claire Simon. Et dans ce film, on est dans une école de banlieue et on voit des maîtresses lire des textes aux enfants, alors plus ou moins des histoires, parce que ça dépend de leur âge. Ça va de Jules Verne à, pour les plus petits, Muriel Sack. Et c'est très émouvant, en fait, de voir ces scènes de lecture, effectivement. Vous êtes resté longtemps en contact, et vous l'êtes peut-être toujours, avec votre instituteur, Monsieur Brunet.
Ah oui, alors lui, c'est... Je lui ai dédié l'un de mes livres. Il est cité dans beaucoup d'autres. Il est d'ailleurs cité d'abord comme une créature en cuissarde luisante plantée au milieu des eaux de la Santoire, parce qu'il était grand pêcheur, Monsieur Brunet. Il ne l'est plus, l'âge l'en empêche, mais il est d'une incroyable longévité, vivacité, encore de corps et d'esprit. Et j'ai le bonheur de le voir régulièrement, de l'entendre aussi. Parfois, il me téléphone, sa voix. C'est exactement la voix dédictée. Sa voix est restée la même, il est plus que nonagénaire. Il a une voix parfaitement vibrante et d'une jeunesse incroyable.
La voix des dictées.
Eh bien oui, moi j'adorais les dictées. J'adorais les dictées et c'est Monsieur Brunet qui nous délivrait la dictée, comme on délivre un sacrement. Il avait un côté, il était en blouse, enfin toute cette quincaillerie là vous voyez, qui est associée à l'école, mais j'ai tort de dire quincaillerie, c'est une mythologie et on a les mythologies nourrissantes que l'on peut et celle-là j'y tiens. Et il nous faisait l'école en blouse. Il nous délivrait donc la dictée. Il avait une voix extrêmement vibrante. Donc, il soulignait les consonnes doubles. Il avait une façon de souligner les consonnes doubles que l'on n'oublie pas. Et cette voix, elle est restée... Et quand je l'entends au téléphone, c'est encore plus net que quand je parle avec lui, véritablement. Mais j'ai gardé vraiment un lien, oui. Hein, et qui est... Il a été providentiel. Cet homme-là, je l'ai eu en CM2, CM1 et CE2. Voilà, les trois dernières années de l'école primaire. Et lui, d'une part, et Madame Durif, d'autre part, à eux, donc à ces deux-là, je voue une reconnaissance éternelle, définitive, inépuisable et encore éblouie.
Vous en faites aussi des dictées en tant que professeur de collège. Est-ce que vous faites bien vibrer les consonnes? Est-ce que vous accentuez certaines prononciations pour qu'on se trompe un petit peu moins?
Alors, disons que c'est un exercice qui a changé de statut, comme vous le savez. Mais quand je dicte, et je l'ai fait tout récemment à l'occasion d'un exercice de brevet blanc, vous voyez, dans mon établissement, alors je prends un plaisir... À faire sonner, en effet, la langue, et notamment à déployer des liaisons onctueuses. Voilà, parce que les liaisons onctueuses sont des indications précieuses pour les élèves qui font la dictée, bien entendu. Et puis ça vous donne un liant à la langue, comme on le dirait pour une sauce, vous voyez. Et ça, j'y prends beaucoup de plaisir.
Alors ensuite, vous avez été pensionnaire, je l'ai dit, on ne va pas dérouler dans le détail toute votre scolarité, mais c'est intéressant et on le retrouve dans certains de vos textes comme « Histoire du fils » paru en 2020.
Jeudi 23 janvier 1919. On était à l'étude. Il frottait ses pieds l'un contre l'autre sous le pupitre. Il avait toujours les pieds froids. Même si sa mère glissait dans sa valise de courts chaussons de laine fine, gris ou noir, qu'elle tricotait pour lui, là-haut, l'hiver, à Chanterelle.
Et dans ce livre, l'histoire du fils, Paul est donc au pensionnat et se languit de sa montagne.
On subissait et on se débattait avec tout ça, les semaines, les pieds froids, la première bucolique et autres purges scolaires. Soub tegminé fagi, sous le couvert des hêtres. Vivement que l'on y soit, sous les hêtres, à Chanterelle, à Pâques, en avril, dans le printemps du monde. Encore une formule. Pas tout à fait. Paul secoue la tête. Il ne parle à personne du pays d'en haut, de Chanterelle, des parents, de la tante. C'est un royaume, ça ne se partage pas. Et il ne faut pas donner prise aux railleurs aurillacois, qui sont légions, moins empaysannés que son frère et lui, et pront à mordre ou à déchirer quiconque les surpasse en tout. Or, Georges et lui les surpassent en tout. C'est comme ça. C'est éclatant. Mais il ne faut jamais mollir, ni baisser la garde. Lui, Paul Lachalme, ne baisse jamais la garde, même s'il a les pieds froids.
Marie-Hélène Lafont, avez-vous eu les pieds froids au pensionnat? Parce qu'on a froid dans ce genre d'institution, d'après les récits que j'ai pu recueillir auprès de ma famille, par exemple. Et avez-vous cherché à briller également au collège et au lycée, ces lieux où c'est un peu plus compétitif scolairement parfois?
Oui, je ne me souviens pas d'avoir eu particulièrement les pieds froids. Peut-être parce que j'ai été pensionnaire dans ces institutions sans Florène. Et il peut faire très froid à Saint-Flour. La cité du vent quand même, Saint-Flour. Hein. J'ai été pensionnaire dans des années... voilà, c'était le début des années 70. Donc les bâtiments, etc. étaient quand même mieux chauffés et plus confortables qu'ils ne l'étaient en 1919, où je situe mon personnage. Alors, si vous voulez, pour moi, le pensionnat, ça a été merveilleux. J'ai énormément aimé le pensionnat tout de suite. Notamment parce qu'au fond, quand on était au pensionnat, on était à l'école tout le temps. Et moi, j'aimais tellement être à l'école que ça m'allait très bien d'y être tout le temps. Vous voyez, d'y être matin, midi, soir, d'y rester la nuit, dans le système de l'école. Et il me procurait tellement de satisfaction. Alors, non seulement des satisfactions, les satisfactions de l'apprentissage, si vous voulez, hein, mais surtout des satisfactions dans le lien avec les autres, dans l'interaction avec les autres. C'était un milieu tellement sécurisant que je crois que la raison pour laquelle j'ai aimé le pensionnat, c'est celle-là, et la raison d'ailleurs pour laquelle beaucoup d'élèves parfois ne l'aiment pas, ou ne le supportent pas, ou le vivent plus ou moins difficilement, c'est celle-là aussi. Parce que, justement, ça prolonge le temps de l'école d'une manière qui peut être vécue douloureusement, mais pour moi c'était pas du tout le cas. Alors briller, j'ai presque envie de vous dire, ça allait de soi. La question se posait même pas. En ce sens que, d'abord, j'ai été, toujours, et ça, pour le coup, je pense que c'est le milieu familial qui me l'a transmis. J'aurais tout à fait pu le rejeter, cet aspect-là, c'est-à-dire le rapport au travail. Mais j'ai toujours eu un rapport au travail comme faisant partie de la vie, vous voyez, qui allait de plein pied. Donc le travail, ça allait de soi, d'une part. Donc ça, c'était plutôt positif. D'autre part, j'ai un peu... Enfin, je suis pas très à l'aise pour le dire, mais enfin, je le dis quand même. J'aimais... je voulais tenir le haut du pavé. Donc, je travaillais beaucoup, je voulais des très bonnes notes, je voulais les meilleures notes, pour de très mauvaises raisons. Des raisons d'orgueil, essentiellement. On peut être bon élève pour de très mauvaises raisons. Des raisons d'orgueil et des raisons dont je dis, parce que ça me permet de les mettre à distance et d'en rire un peu, qu'elles avaient quelque chose à voir avec la lutte des classes, parce que c'est à l'école que j'ai découvert, au pensionnat, que j'ai découvert la lutte des classes.
C'est-à-dire que tous les enfants ne venaient pas de ferme.
Bien sûr que non.
Ça crée des...
Évidemment.
Vous vouliez être une digne représentante,
voilà. Des
filles de paysans.
Voilà, je voulais montrer aux filles, puisque c'était un pensionnat de filles. Il y avait quelques malheureux garçons externes ou demi-pensionnaires auxquels nous faisions vivre un enfer, mais c'était un pensionnat de filles. Et je voulais montrer donc aux filles des notables Saint-Florin qu'on avait beau être filles de paysans, on pouvait éventuellement tenir le haut du pavé. C'est en ce sens que je dis que je tenais à briller, entre guillemets, hein, comme on peut le faire au collège ou au lycée, pour de très très mauvaises raisons. Mais j'en tirais de puissantes satisfactions.
Vous avez parlé dans un livre d'entretien, Le Pays d'en haut, entretien avec Fabrice Lardreau, d'une rage d'apprendre. Mais oui. La rage, c'est pas seulement pour briller, c'est aussi pour accumuler des savoirs. C'est un rapport au savoir qui est une chose assez abstraite, mais qu'on fréquente finalement dès l'école.
Oui, oui. Oui, cette rage, elle était... Vous avez raison, j'ai tendance à la circonscrire, hein, en rabattant sur elle cette lecture politique, on va dire, ou sociologique. Mais elle était plus vaste que ça. Et ce qui était très, comment dire, ce qui demeure pour moi très émouvant quand j'y pense, c'est que l'école ne la comblait pas totalement, mais tout de même, hein, elle l'apaisait en grande partie, vous voyez. C'est-à-dire que j'étais nourrie, pas suffisamment, hein, j'avais toujours envie de plus. Par exemple, je aimais avoir plus de livres à lire. J'étais dans une grande frustration de livres à lire, de livres nouveaux à lire, de livres que je n'avais pas déjà lus, qui eussent été dans la bibliothèque du pensionnat et qui n'y étaient pas. Elle était très pauvre, cette bibliothèque, vous voyez. Mais, la joie de construire cet édifice intérieur et jamais achevé, qu'est le savoir. C'était une joie très... pas abstraite du tout. Moi, je l'apercevais comme étant quelque chose de très charnel, de très incarné. Et ça m'habitait profondément.
Est-ce la main de Dieu, est-ce la main du diable qui a tissé le ciel de ce beau matin-là, lui plantant dans le cœur un morceau de soleil qui se brise sur l'eau en mille éclats vermeils? Est-ce la main de Dieu, est-ce la main du diable qui a mis sur la mer cet étrange voilier qui, pareil au serpent, semble se déplier noir et blanc sur l'eau bleue que le vent fait danser? Est-ce Dieu, est-ce diable ou les deux à la fois qui un jour s'unissent en fait ce matin-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment, je ne sais pas. Mais pour tant de beauté, mère, si échappe au bas. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a mis cette rose au jardin que voilà? Pour quel ardent amour, pour quelle noble dame, la rose de velours au jardin que voilà? Et ses prunes éclatées, et tous ses lilas blancs, et ses groseilles rouges, et ses rires d'enfant, et Christine si belle sous ses jupons blancs, avec au beau milieu l'éclat de ses 20 ans. Est-ce Dieu, est-ce le diable, ou les deux à la fois, qui un jour s'unissant fait ce printemps-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre vraiment? Je ne sais pas, mais pourtant de beauté, merci et chapeau bas. Le voilier qui s'enfuit, la rose que voilà, et ses fleurs et ses fruits, et nos larmes de joie, qui a pu nous offrir toutes ces beautés-là? Cueillons-les sans rien dire, vaste, c'est pour toi et moi. Est-ce la main de Dieu et celle du malin qui un jour s'unissant croisent nos chemins? Est-ce l'un, est-ce l'autre vraiment? Je ne sais pas, mais pour cet amour-là, merci et chapeau bas. Mais pour toi et pour moi, merci et chapeau bas.
Chapeau bas, un choix de Marie-Hélène Lafon, écrivain et professeur. Vous avez grandi, Marie-Hélène Lafon, on l'a dit, à la campagne. Mais campagne, c'est pas un mot vraiment très suffisant. Vous avez grandi en moyenne montagne, dans une ferme. Et vous étiez une enfant vagabonde. Je sais pas si ce mot vous convient. Vous promeniez beaucoup, très librement. Pas forcément avec un accord total de votre mère. Mais vous preniez le temps d'aller sur les chemins, près des rivières, dans la montagne. Qu'est-ce que cela vous a appris ?
Promeneuse plutôt que vagabonde, parce que j'avais des rituels. En fait, je me promenais tout le temps au même endroit. Et ça commence quand j'ai 9 ans. Et en général, c'est le dimanche après-midi. Et j'ai un calibre de promenade, dont je sais qu'il n'inquiétera pas, en effet, ma famille. Parce que c'est un usage qu'on n'a pas du tout, hein, dans le monde paysan. Hein. On ne se promène pas. Et ça paraît un peu singulier, mais on me laisse faire. Voilà. Et si je pars 2 heures, 3 heures au maximum, ça n'inquiète personne. Et je suis reconnaissante qu'on me laissait faire. Parce que ce que ça m'a appris, c'est exactement ce que chante Barbara. Cette chanson, je ne peux pas l'écouter sans une émotion, mais qui est immense. Ce que ça m'a appris, c'est la beauté. Ça n'a pas de prix.
Barbara, qui a été une enfant cachée, oui, pendant la guerre, à la campagne, mais cette beauté, Marie-Hélène Lafon, c'est pas quelque chose qu'on vous transmet. Vous le dites, les paysans ne font pas de randonnée, on se promène pas forcément pour le plaisir, d'abord parce qu'on travaille beaucoup.
Bien sûr.
Et donc, comment ce sentiment est venu à vous? C'est si mystérieux?
Je pense que j'en avais besoin. Mais si l'on trouvait dans la vie tout ce dont on a besoin, ce serait tout de même formidable. Donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Pour des circonstances très particulières, j'ai commencé à adopter ce rituel du dimanche après-midi. C'était le dimanche après-midi, hein, la promenade. Voilà. Et dans la promenade, je suis allée au bord de la rivière, je suis allée au bord de la Santoire. Vous vous asseyez au bord d'une rivière, vous avez la lumière, vous avez la rivière, vous avez les libellules, vous avez le monde entier. Et ça m'a traversée. Et c'est comme une rencontre amoureuse. Sauf que je dis que c'est une histoire d'amour qui ne finit pas. Et c'est pour ça que cette chanson m'émeut infiniment, tant de beauté, et ensuite cet amour, ben oui, voyez. C'est une histoire d'amour avec la beauté du monde qui ne finit pas.
Et vous les faites encore, ces promenades ?
Bien sûr, bien sûr. Et je les fais encore, et au fond, je me rends compte que le monde n'est pas juste, quoique mon calibre de promenade, celui que je préfère, c'est celui-là. 2 heures, 3 heures... Et ce sont des promenades très répétitives. J'aime aller aux mêmes endroits, parce qu'ils ne sont jamais les mêmes. Jamais.
On
jamais
baigne,
deux fois la même lumière.
On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.
Voilà.
Est-ce que ça vous aide aussi à écrire ?
Disons que, évidemment, alors ça c'est fondamental, hein, quand on a le mode de vie que j'ai, c'est-à-dire avec toujours plusieurs fichiers mentaux qui tournent et qui sont ouverts, hein, ce type de plongée comme ça, vous voyez, fait que les choses se remettent en place sans que vous ne vous en rendiez compte. Voilà. Et ça joue un rôle fondamental dans mon équilibre de vie et dans mon équilibre de travail. Et je ne peux pas faire ça à Paris, en revanche, vous voyez. Ce que j'appelle mes patrouilles, j'emploie le mot patrouille aussi, alors qu'il a un côté un peu militaire, mais bon, ce que j'appelle mes patrouilles, vous voyez, je n'ai jamais pu les transposer dans l'espace urbain, alors que pourquoi pas, après tout, hein. Aller comme ça, marcher 2 heures dans Paris, revenir...
Bah, beaucoup de gens le font, y compris pour réfléchir. Oui. François Mitterrand, on pouvait le croiser si on se baladait à Paris, il y a fort longtemps, pour nos auditeurs, mais ça sert à régler un certain nombre de questions, parfois, qui traînent dans la tête. On a aussi fait des émissions ici sur les vertus pédagogiques de la marche, qui permet... d'apprendre,
elles sont,
peut-être qu'il se passe quelque chose.
Elles sont absolument indéniables, les vertus pédagogiques de la marche, si ce n'est que dans mon cas, je n'ai jamais pu les transposer en milieu urbain, citadin, etc. Jamais.
Pourtant, c'est là où vous allez enseigner, le milieu urbain. Est-ce que enseigner, devenir professeur, était une évidence pour vous? J'aime pas trop parler de vocation, mais quand est-ce que c'est arrivé comme... une voie possible pour travailler, parce qu'on a besoin de travailler pour vivre.
Ben vous avez dit les choses. Hein. Ça n'était pas une vocation, mais c'était une évidence sociologique, économique, raisonnable, et dont j'ai toujours su, ou très tôt en tout cas, qu'elle serait là. Et c'est très sociologique, hein, c'est très générationnel. Mmh. Vous voyez, fille de paysan, boursière, dans ces années-là... L'injonction familiale, ça n'était pas du tout de devenir professeur, c'était de devenir fonctionnaire. Je pense toujours à la chanson de Jean Ferrat, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Bon, donc fonctionnaire pour la régularité des revenus, etc. C'est ce que des hommes comme mon père souhaitaient pour leur fille, il en a dit différemment des garçons. Hein, j'étais une fille, et quand on apprenait bien à l'école, ce qui était mon cas, donc pour toutes les merveilleuses et bonnes et moins bonnes raisons que je vous ai données tout à l'heure, quand on apprenait bien à l'école, il y avait une sorte d'emboîtement, comme ça j'ai envie de vous dire, d'enchaînement. Voilà, on allait devenir probablement institutrice. Voilà. Bon, il se trouve que, pour des raisons aussi qui sont de pur hasard, vous voyez, j'ai porté un peu plus loin mes pas que... Clermont-Ferrand, je suis allée à Paris, et j'ai embrassé des études qui ont fait que je suis devenue professeure dans le secondaire et non pas institutrice, j'aime beaucoup ce mot-là, mais il y avait une sorte d'enchaînement comme ça. Et la vocation chez moi, et moi j'aime le mot, elle était pour l'écriture. Moi ce que je voulais faire c'était écrire. Je suis devenue professeure par raison, mais je dis toujours, et je ne le démentirai pas alors que je vais cesser de l'être dans quelques mois, que j'ai appris à aimer le métier en le faisant. Et à lui trouver du sens en le faisant. Et c'est une des raisons pour lesquelles je continuerai à le faire jusqu'au bout.
C'était difficile les premières années d'enseignement ?
Oui, c'était difficile.
Où était-ce ?
J'y allais un peu à reculons, à vrai dire. Hein. C'était très vite après le bac. Donc j'ai passé le bac en 80. Et en 84, un peu par surprise, on va dire, j'ai eu le CAPES. Bon, bah, j'ai fait mon année de formation en région parisienne. Ma première classe était une classe de lycée, au lycée Alfred Bouloche, qui doit être à... Il est du côté de... dans la banlieue Est, la grande banlieue Est. Hein, bon. Et j'avais des élèves lycéens, donc, qui étaient en seconde. On avait 4 ans de différence. Voilà. Donc ça, c'était un peu étrange. Et j'étais très appliquée, mais j'étais aussi très angoissée. Et je crois aussi, ça je ne l'identifiais pas, hein, mais je crois que, si vous voulez, ce mince savoir issu de mes études... que je venais d'acquérir comme ça et qui n'était pas du tout bien installé en moi, dont je sentais à quel point il était fragile, il fallait déjà le partager et le transmettre. C'était trop tôt, j'étais chancelante. Alors comme je faisais le travail, hein, je m'appliquais beaucoup, hein, mais je ne garde pas un bon souvenir de ces premières années-là. Il y a eu cette année-là, hein, Livry-Gargan, ça y est, je me souviens. Et ensuite, j'ai enseigné une année au lycée Gambetta à Arras. Et là, c'était mon premier poste à temps complet. Le lycée Gambetta, dont on sait depuis l'assassinat de Dominique Bernard, de vertigineuse mémoire. J'ai enseigné une année dans ce lycée-là, vous voyez, dans cet établissement-là. Voilà. Et à cette époque-là, je me souviens très bien de ces 2 années-là, j'avais un rapport difficile à l'acte d'enseigner, vraiment. Mais comme j'étais très consciencieuse, ça se passait, mais ça m'était difficile. Pour les raisons que je viens de vous dire, mais que je n'identifiais pas, mais je crois que c'était essentiellement pour cette raison-là. Ensuite, j'ai passé l'agrégation, et quand je suis revenue après l'agrégation, je ne sais pas, il y a une sorte de bascule qui s'est faite comme ça. Et c'était parti, Voilà, c'était parti avec des moments de haute solitude, hein. Parce que le professeur qui viendra vous dire qu'il n'y a pas de moment de haute solitude, je douterai de la véracité de ses propos, très honnêtement. Pas de sa sincérité, mais voilà. Mais voilà, il y a des moments de haute solitude, il y a des moments de vertige, mais j'ai toujours enseigné depuis donc plus de 40 ans avec des moments comme ça, sporadiques, mais très intenses, où je touche vraiment l'utilité et la nécessité de ce que je fais. Et ça, c'est très très important. Sentir que ce que l'on fait est utile et nécessaire, il y a du sens. Je pense que dans l'exercice d'un métier, c'est extrêmement précieux.
Tous les métiers ne peuvent peut-être pas en dire autant. Parfois, pour les anciens bons élèves, il est difficile de combler la distance qu'il y a entre les enfants qu'on a face à nous, qui ne sont pas tous intéressés par l'école, qui n'ont pas tous la rage d'apprendre pour plein de raisons différentes, qui maîtrisent parfois mal la grammaire, qui vous tient tant à cœur, Marie-Hélène Lafont. Comment faites-vous face à ce qui est peut-être pas d'ailleurs forcément une difficulté, mais ce qui s'avère être un sujet sérieux ?
Oui, c'est un sujet incontournable et très très vertigineux en effet. Parce que beaucoup de professeurs sont d'anciens bons élèves, ou d'anciens très bons élèves. Et je crois, vous voyez, je n'y ai jamais vraiment réfléchi de façon appliquée, mais je pense peut-être aussi qu'une des raisons pour lesquelles, au départ, il a fallu que je procède à des ajustements pour trouver ma place comme professeur, c'est ça justement. C'est que j'étais une ancienne très bonne élève et une élève en état d'appétence permanent. Et je n'avais évidemment pas que des élèves en état d'appétence permanent devant moi. Et ça, probablement qu'il a fallu que je trouve des moyens d'aller moi vers eux, vous voyez, et de leur faire place. Et je n'ai pas toujours trouvé ces moyens-là. Hein. Ça, c'est absolument évident. C'est-à-dire que c'est douloureux de dire ça, surtout quand on va cesser d'enseigner dans quelques mois. Mais, j'allais dire, c'est comme à l'armée, il y a un pourcentage de pertes. C'est-à-dire que il y a des élèves pour lesquels je n'ai rien pu. Et pour certains d'entre eux, sans doute étaient-ils arrivés dans l'école avec un passif et des vertiges personnels qui étaient tellement immenses que l'école n'a pas pu leur faire place. Et moi, j'ai participé à ce système. Alors, il m'est arrivé, notamment quand j'enseignais en zone d'éducation prioritaire. Pendant une dizaine d'années, j'ai enseigné à la Porte de Bagnolet, en zone d'éducation prioritaire. Et là, il y avait des dispositifs pour, dans ce genre d'établissement, vous voyez, des dispositifs à inventer, à mettre en place, notamment pour, j'ai presque envie de vous dire, apprivoiser l'écriture et la lecture, l'écriture surtout. C'est-à-dire, non pas l'écriture au sens graphique du terme, mais la construction des phrases, etc. Et je me souviens d'avoir participé avec, on était une équipe de trois, vous voyez, à inventer des dispositifs pour ramener, vous voyez, ces enfants-là. Hein. Et ça prenait un temps fou, ça prenait une énergie folle, il fallait inventer tout le temps. Mais là, par exemple, on avait le sentiment d'être utile.
Parce que ça marchait.
Et bien sûr que ça marchait. Hein. Voilà. Ça marchait pas pour tout le monde, ça marchait pas tout le temps. Hein. Mais je pense que ça apprivoisait, quoi. Ça ouvrait une voie et ça apprivoisait des élèves qui arrivaient hérissés en rage et en colère contre l'école. Voilà. Parce que l'école leur renvoyait quelque chose qui était insupportable. Et ça, moi j'ai toujours enseigné en collège, hein, pour toutes sortes de raisons. Donc j'ai toujours eu affaire à des enfants qui avaient entre 11 et 14 ans, ou 15 ans. Hein. Alors je dois dire que depuis une vingtaine d'années, en français, je n'ai eu que des élèves de 14 ans, les adolescents, la classe de 3e, la classe finale du collège. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'enfants de 6e ou de 5e. Et je me souviens que ces dispositifs, vous voyez, dans cet établissement-là, à la Porte de Bagnolet, c'était des dispositifs qui s'adressaient vraiment aux enfants de 6e et de 5e. Hein. Et Je crois qu'il faut déployer une énergie et des moyens aussi. Hein, soyons clairs, des moyens de temps, donc des moyens d'argent considérables pour arriver à ouvrir des brèches. Hein, et ça peut fonctionner. Sauf que il ne me semble pas que dans les dernières années, ce genre de dispositif ait forcément le vent en poupe. Hein.
Alors, ça appelle une double question. Comment avez-vous vu l'école changer et les élèves aussi évoluer dans leur rapport au savoir et leur comportement ?
Alors, vous savez, moi je dis toujours aux élèves, et j'ai commencé à leur dire ça il y a une bonne quinzaine d'années, quand j'ai commencé à prendre de la bouteille, comme on dit, hein. Je dis toujours aux élèves que ce qu'il y a de mieux dans l'éducation nationale, c'est eux. Ça, j'en suis totalement persuadée. C'est-à-dire que, une fois qu'on a posé un cadre, alors je dois dire que, bon, moi je suis... On ne peut pas ne pas enseigner aussi ce que l'on est, si vous voulez. Hein. Donc, moi je pose un cadre. Je n'ai aucun problème avec l'exercice de ce qu'on appelle la discipline et l'autorité. Aucun. Mais une fois qu'on a posé ce cadre... Et parfois, ça conduit à l'affrontement, hein. Ça conduit à, voilà. Et ce cadre, il faut en raviver les limites pour certains enfants constamment, toute l'année. Mais bon, ça fait partie de mon travail. Surtout quand on enseigne en collège. Hein. Bon. Eh bien, une fois que le cadre est posé, il est rare, ça arrive, hein, bien sûr, hein. Mais il est rare qu'on n'arrive pas à faire faire des choses, à faire faire à des élèves des choses dont on pensait, dont eux surtout pensaient au début qu'ils n'étaient pas capables. Vous voyez? Voilà. Et ça, ça c'est quand même, c'est le velours de ce métier. Vous voyez? Ça. Voilà. Mais pour le toucher du doigt, ça demande, un engagement. Vous voyez? Ça demande, quand on y est avec eux, avec les élèves, et moi je trouve pas qu'ils aient tellement changé.
C'était ma question de départ.
Oui, mais je l'oublie pas. Je trouve pas qu'il ait tellement changé. C'est-à-dire que je trouve que une fois qu'on a écarté la question du téléphone, hein, bon, et qu'on les met en situation d'être dans la concentration et dans le travail, ils ont de l'élan, ils ont de l'ardeur. Et cet élan et cette ardeur, ça m'émeut infiniment de les retrouver, j'ai presque envie de vous dire, intacts. Les modalités sont pas les mêmes qu'il y a 40 ans quand j'ai commencé à enseigner. En effet, certains d'entre eux sont tellement... exposés trop tôt hein, à des sollicitations qui passent notamment par les écrans, qu'ils ont des problèmes de concentration. En effet, je suis d'accord, leur temps de concentration est plus court. Hein. Mais on peut les emmener. Hein. L'élan, le désir des élèves, il est là.
Même pour la grammaire.
Ah bah oui, même pour la grammaire. Moi, je reste persuadée de ça. Hein. Et il ne s'est pas passé d'années. Et pourtant, il y a eu des moments difficiles, hein, et des moments, ce que j'appelle encore une fois, des moments de haute solitude. Mais il ne s'est pas passé d'années sans que je le touche, ça, vraiment, hein, y compris avec la grammaire, en effet. Hein. Bon, mais vous lisez des textes, lire des textes dans une classe, ben c'est une expérience immémoriale. Hein. Au fond, ce que je vois passer dans les yeux de mes élèves quand je leur lis certains textes à certains moments, c'est ce qui se passait dans mes yeux quand Madame Durif lisait un texte ou quand Monsieur Brunet nous faisait la dictée. C'est le plaisir, la découverte du sens. Et ça, c'est le noyau dur, hein, c'est l'épicentre du séisme de l'enseignement. Ça, ça n'a pas bougé. Hein. Alors, l'institution, pardonnez-moi, hein, l'institution, je vis avec elle et en son sein depuis 40 ans. Hein. Donc, j'en connais un certain nombre de délires, voilà, hein. Et j'en connais aussi la grandeur. Et je suis très très attachée au service public de l'éducation nationale. J'ai toujours enseigné, par exemple, dans le service public. Et j'ai bien l'intention de persister encore quelques mois.
On va écouter un auteur qu'on enseigne parfois à l'école et qu'on lit aussi beaucoup en France.
Je dis souvent que c'est ma mère qui a écrit ce livre, ou ma grand-mère, ou mon grand-père, enfin, et c'est vrai. C'est leur paysannerie mal assumée parce que c'était des gens intellectuellement très, très doués, enfin, vraiment. Hein, je les admire même maintenant, enfin, donc ils étaient paysans, ils s'en contentaient. Et ils avaient une grande culture narrative. Je dirais pas que c'était des parleurs ou que c'était des conteurs, mais quand ils avaient un tout petit truc à dire, ils le disaient parfaitement, et dans une langue qui me paraît maintenant, moi, parfaite. Et c'est avec cette langue-là, avec la leur, que j'ai écrit Les Vies minuscules. C'est-à-dire que c'est un peu un paradoxe, parce que c'est un livre sans patois, écrit très, très bien, comme on dit, littéraire. Eh bien, dans leur effort à s'exprimer, et dans leur expression entre eux, ils avaient cette langue littéraire.
Pierre Michon, Marie-Hélène Lafon, parce que c'est un auteur que vous aimez énormément. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'enseigner, de le faire lire à vos élèves. Mais
non, pas en collège, je dois dire.
C'est peut-être un peu tôt.
Voilà, je n'ai pas eu cette audace. Je leur ai lu, parfois, y compris Boulevard Arago, donc c'est un lieu hautement citadin, hein. Le boulevard Arago,
là où se situe votre
voilà, tout à fait. Hein. Je leur ai lu parfois un très beau texte où il est question d'un renard qui marche dans la neige. Et la dernière phrase, c'est « Mais qu'a-t-il donc, le renard, pour que prononcer son nom nous bouleverse ainsi ?» Ça, c'est un très beau texte de Pierre Michon. Et quand je... Très court. Et quand je lis ça aux élèves, vous voyez, les élèves de 2022-2024, ils le voient passer, le renard. Voilà. Donc merci à Pierre Michon. Pour moi, Pierre Michon, c'est, enfin, j'ai une immense admiration pour l'œuvre de cet homme qui a été pour moi fondatrice. Et ce qu'il dit là, extrait que je n'avais jamais entendu d'ailleurs. Hein, ça, c'est un propos que je ne l'avais jamais entendu tenir. Ce qu'il dit, évidemment, me touche infiniment parce que je crois que dans les façons de dire de mes parents ou de ma grand-mère maternelle, c'est celle que j'ai le plus entendue, il y a un terreau de la langue que j'écris aujourd'hui. Il y a une des sources de la langue que j'écris aujourd'hui. Voilà. Alors il le dit lui infiniment mieux, etc. Mais je crois que c'est le même processus.
Parce que ces parlers, ils sont évidemment régionaux, il y a un substrat de langue, alors on ne doit pas dire
oui,
patois,
oui, hein,
de langue locale, de dialecte, c'est évidemment la langue d'oc quand on est dans le Cantal. À Paris, on a aussi une manière de parler en banlieue qui est locale, qui a des inspirations diverses, qui changent aussi avec le temps. Ce parler, est-ce que pour les enseignants, c'est un obstacle ou c'est quelque chose dont vous pouvez vous servir avec les élèves? Est-ce que c'est une autre langue, la langue de l'école, par rapport à celle qu'on parle quand on est à l'extérieur?
Alors, quand j'étais enfant, ça, vous voyez, pour le coup, hein, c'est-à-dire la langue dans la sphère familiale, et la langue telle qu'elle nous était enseignée dans la sphère de l'école, c'est à partir de la sixième à peu près, vous voyez, en rentrant donc au pensionnat, que j'ai pris conscience qu'il y avait des bifurcations, hein, et qu'il y avait des variantes, hein, et que certaines variantes qui convenaient très bien dans un contexte ne convenaient pas du tout dans l'autre et étaient vouées aux gémonies. Hein. Bon, alors pour le coup, j'ai toujours enseigné en milieu urbain, j'ai longtemps enseigné en banlieue, mais j'ai envie de vous dire que la conduite assez verticale que j'ai de la classe, et que j'ai toujours eue, même quand j'étais plus jeune, a fait que cette langue orale, qui était celle que les élèves parlaient à l'extérieur, je l'entendais très peu, moi, vous voyez, dans la sphère de la classe. Très très peu. Parce que assez vite, les élèves avaient tendance à adopter, pas forcément dans leur écriture justement, hein, mais dans leur parler oral, hein, des tournures beaucoup plus normées, qui étaient celles qui étaient mises en place dans l'espace de la classe d'une manière pour le moment assez énergique, et peut-être aussi attractive, je ne sais pas, hein, pour qu'ils les adoptent, vous voyez. Bon, et... il ne m'échappe pas qu'il y avait là une dimension de, si vous voulez, peut-être de castration, hein, ou bon, voilà. Il n'empêche que nécessité fait loi, hein, c'est-à-dire que quand la langue parlée dans l'espace vernaculaire vous enferme, c'est-à-dire qu'elle devient stigmate, hein, eh bien la place de l'école, c'est de donner les clés pour justement ouvrir cet espace vernaculaire, en sortir en étant capable de maîtriser les codes du parler courant et admis en toutes circonstances. Et ça me paraît très très important. Et l'école, elle a sacrément à faire avec ça. Alors, c'est vrai que donc on se prive parfois comme ça de façon extrêmement dynamique et inventive d'habiter la langue. Alors, par exemple, moi, je me souviens de cet adjectif glauque. Un jour, j'ai compris que les élèves que j'avais avaient une manière d'utiliser l'adjectif glauque qui était absolument formidable et qui lui redonnait du jus à cet adjectif un peu raplapla et ramollo. Vous voyez, alors ça, on peut...
Effectivement, c'est un mot qu'on utilise énormément pour dire tout ce que les auditeurs savent, que c'est moche, que ça donne pas envie, que c'est un peu sordide.
Voilà. Ça, par exemple, vous voyez, pendant longtemps, je n'ai eu de ce mot-là, par exemple, je n'ai pratiqué de ce mot-là que son acception classique, un peu en voie de désuétude. Et en fait, ça doit être aujourd'hui...
Ça veut dire verdâtre, glauque.
Voilà, vous voyez. Donc, aujourd'hui, vous voyez, ça a pris comme ça un chatoiement et une richesse. Ce mot-là, il s'est rechargé, comme on dirait, d'énergie, vous voyez. Ben ça, par exemple, c'est venu d'un parler qui n'était pas celui que j'avais tendance, moi, à prôner. Mais bon, je tiens beaucoup à ça, parce que, encore une fois, j'ai des élèves jeunes, et pour certains d'entre eux, tellement démunis dans leur rapport à la langue. Il faut leur donner un viatique, il faut qu'ils sortent du collège avec le viatique. Et qu'est-ce que c'est que le viatique? C'est de pouvoir aller dans le monde en se faisant comprendre et en n'étant pas renvoyé, vous voyez, à des origines ou à un rapport au langage, etc., qui va les condamner à rester dans un système de ghetto. Ça, c'est pas possible. L'école publique, elle doit justement ouvrir les perspectives, vous voyez. Et c'est déjà énorme.
D'ailleurs, le cours sur les niveaux de langue est en général un cours que les élèves aiment beaucoup.
Oui, ils aiment beaucoup
mais
ça.
C'est plutôt au début du collège, enfin, on continue à en parler longtemps. Que faites-vous lire à vos élèves?
Ah, des livres que j'aime uniquement. Si je les aime pas, je les fais pas lire. Voilà, par exemple, là, cette année, ils ont lu Des souris et des hommes. Et là, en ce moment, alors vous allez être un peu effarés, mais c'est un livre que j'ai fait lire toutes les années. Alors celui-là, pour le coup, toutes les années à mes élèves de 3e. Je leur ai donné d'ailleurs hier. À lire, je leur ai présenté, il faut les accompagner bien sûr, c'est « Si c'est un homme » de Primo Levi. Vous voyez, ça c'est l'honneur de l'école, de les accompagner dans la lecture de « Si c'est un homme » de Primo Levi.
Un si grand texte. Alors, Steinbeck, Primo Levi, on n'est pas chez des auteurs français, évidemment, ce sont des livres que l'école sonore a enseignés.
Il y aura Camus, français, par exemple.
Bien sûr.
Par exemple, vous voyez, enfin, je pense, voilà, bon, ça peut Irène Némirovski, Le bal, par exemple. Vous voyez, je pense que je terminerai avec ces deux textes-là, avec mes élèves d'ici la fin de l'année, après Primo Levi. Et puis surtout, avec des élèves en collège, on travaille la langue, vous voyez, la grammaire, je veux dire, la phrase, quoi.
La syntaxe.
Ah oui, oui, oui. Et on écrit ensemble aussi. Et ça, c'est très, très, je crois que c'est très formateur, enfin. Il y a le Lego de la langue, le Lego de la phrase. Et souvent, j'ai constaté que les élèves, même ceux pour qui c'est difficile de manipuler les pièces du Lego, s'ils voient, des figures, même dans un premier temps simples, accessibles, sont possibles, leur sont accessibles, et que ces figures procurent du plaisir... Alors, dans mon cas, c'est manifeste que ça me procure beaucoup de plaisir d'emboîter une bonne petite subordonnée relative, vous voyez, voilà. Eh bien, c'est un peu contagieux. Parce que, vous voyez, le mot plaisir, parce que j'ai parlé d'autorité, etc., le cadre, etc., et puis le travail, la discipline, tout ça, bon. Mais le plaisir, moi j'ai du plaisir à être en classe.
Mais l'ego, ça veut dire je joue?
Oui, alors évidemment. Oui. Donc,
on joue un peu aussi?
Oui, bien sûr. Alors, vous allez me dire qu'il y a des jeux moins austères que l'accord du participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir. C'est sûr. Mais je crois que dans l'être ensemble dans l'espace d'une classe, il y a une place pour le plaisir. Et pour même parfois des moments de joie. Vous voyez ? Ça n'est évidemment pas la constante. Hein ? Évidemment qu'il y a de la contrainte, du recommencement, de l'ennui. Aussi, ça en fait partie. Mais il ne faut pas en exclure le plaisir et la joie.
Marie-Hélène Lafont, professeure et écrivain, vous aimez mieux qu'on dise écrivain et non écrivaine. Mais est-ce que c'est une bonne situation ? Est-ce que ça vous laisse suffisamment de temps pour écrire, pour penser vos livres ? Est-ce que les deux activités sont pleinement séparées ou parfois se rencontrent-elles ? Dites-moi.
Elles se rencontrent. Elles se rencontrent. J'ai commencé à écrire alors que j'étais déjà professeure depuis longtemps, en 96, et j'ai commencé à enseigner en 84, vous voyez. Et au début, j'avais tendance à scinder, à séparer beaucoup, à penser que ça devait rester séparé, mais en fait, ça n'est pas séparé, c'est toujours la langue. Vous voyez, je ne peux pas, travailler, entrer dans un texte littéraire avec des élèves, tenter de voir comment s'articule la place des adjectifs dans un poème de Guillaume Apollinaire avec eux, je ne peux pas faire ça comme je le ferais si je n'écrivais pas. Je le fais autrement, certainement, que je le ferais si je n'écrivais pas. Il faut que je veille à ce que ça ne soit pas plus opaque pour mes élèves. Hein. Ça demande de la discipline. Hein, voilà. Mais il y a donc une contiguïté entre les deux. On est dans la langue, dans la matière de la langue, toujours. Simplement, c'est une lutte à couteau tiré. Ça demande une discipline de fer, hein, que d'avoir ces deux vies, ce que j'appelle la double vie. Voilà. Et ça, je dois dire que ça a été une lutte, vraiment, hein, dans les 10-15 dernières années.
Parce que vous écrivez quand même beaucoup, à la fois des romans. Alors, on peut citer les sources, mais tout récemment, un livre autour de Cézanne, en 2024. Vous venez de participer à un ouvrage paysanne, un ouvrage de photos, où vous avez écrit un très joli texte. Les photos sont extrêmement émouvantes, c'est publié chez Ulmer. Et l'auteur est Alexis
Vettoretti.
Vous avez voilà, une activité même croissante.
Je suis une travailleuse de force. Je suis une brute de travail. Et j'ai une très grande discipline. Il faut avoir beaucoup de discipline pour pouvoir être à la fois professeur et être à 100 000% avec ses élèves quand on est avec eux. Parce que si on n'est pas à 100 000% avec ses élèves quand on est avec eux, ben rien ne se passe. Et ne pas rendre les copies en retard. Sous prétexte qu'on est allé faire le zouave sur les ondes de France Culture, par exemple, vous voyez. Bon, c'est de la discipline, c'est de l'organisation, voilà. Et je dois dire que depuis 3 ans, j'ai pu enseigner à temps partiel. Voilà, donc mes 3 dernières années d'enseignement, je les ai pratiquées à temps partiel et ça a été un confort très très important.
C'est voilà. Une vraie question que je me suis posée et un tout petit peu enseignée. Alors, dernière petite question un peu plus amusante. Dans vos livres, les prénoms sont très importants. Pour certains, c'en est même le titre. Je pense à Joseph, mais on a des Paul, des André dans Histoire du Fils, et ces prénoms sont chargés de signification. Je ne vais pas tous les citer. Vous en donnez énormément. Pas toujours. Hein, la mère dans les sources, elle n'est pas nommée. Les élèves aussi, c'est plein de prénoms, une classe. Est-ce que ça prend un relief particulier et pourquoi cet intérêt pour les prénoms ? Est-ce que vous le gardez quand vous enseignez d'ailleurs, Marie-Hélène Lafont ?
Ah oui, alors les prénoms, c'est tout un paysage, un prénom. Hein. Ça fait partie des découvertes du début de l'année. Voilà. On a une liste de classes, ensuite on découvre les élèves, on a des visages. Donc, oui, c'est ça. Un prénom, c'est un paysage. Un prénom, dans un texte, quand on écrit, c'est une musique. Hein. Donc, c'est absolument fondamental dans le rythme du texte, évidemment. Hein. J'aime l'étymologie des prénoms. Et quand vous m'évoquez cette question des prénoms, vous avez cité un de mes livres qui s'intitule Joseph.
Donc, est-ce que vous en parlez, en fait, du statut de ce prénom dans cette époque-là ? Joseph, c'est un prénom qu'on donne volontiers aux bébés d'aujourd'hui, mais à l'époque du livre, c'est un prénom très peu courant.
Bien entendu. Et quand j'écrivais ce livre, quand j'étais en train de travailler à ce chantier donc intitulé Joseph, avec ce prénom, Joseph, ce prénom tellement... J'avais un élève qui s'appelait Joseph. Je vous assure, c'était de l'ordre de la collision. Je m'en souviens très bien, c'était un élève que j'avais en latin en quatrième. Déjà dans le collège dans lequel j'enseigne encore actuellement, vous voyez, jusqu'à la fin du mois de juin. Et là, il y avait une réelle collision. C'est-à-dire que parfois, quand j'appelais cet élève dans l'espace de la classe, Joseph, vous voyez, j'entendais ma phrase. Alors ça, c'était extrêmement éprouvant. Surtout que le Joseph de mon livre, hein, il avait quand même une vie... terrible, à bien des égards. Et j'avais il avait 13 ans, on a 13 ans en quatrième, qui était là. Et j'avais l'impression que j'allais lui plomber sa vie avec mon Joseph. Vous voyez, je vous assure, là, il y avait une capillarité, mais qui était vertigineuse. Totalement vertigineuse.
Vous les tutoyez ou vous les vouvoyez, vos élèves?
Je les vouvoie.
Ça ne m'étonne pas. Pourquoi?
Parce que j'aime l'élégance du vouvoiement. Et j'aime aussi que le vouvoiement, comment dire, matérialise comme ça, à la fois, la distance et le lien entre eux et moi. Je suis à ma place d'adulte.
I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow. Like a sleepy golden storm, yes. Many love before us, I know that we are not new. In city and in forest, they smiled like me and you. But now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another.
Marie-Hélène Lafont, alors comme vous, j'adore cette chanson de Leonard Cohen, That's No Way to Say Goodbye. Pourquoi ce choix?
À cause des cheveux blonds sur l'oreiller, je crois, pour cette image-là. Et aussi pour la douceur vertigineuse de cette mélodie et de cette voix.
Let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say. Goodbye.
Merci beaucoup Marie-Hélène Lafont d'avoir été avec nous pour cet épisode spécial, ce grand entretien. Je ne sais plus lequel des livres je dois citer. Les sources, évidemment, que j'ai énormément aimé, publié chez Buchet-Chastel, comme tous vos romans, Joseph, dont on a parlé. Histoire du fils, ben c'est simple, je les ai tous lus. Et je vous souhaite, je ne sais pas si je dois vous souhaiter une bonne retraite, une bonne fin d'année scolaire, déjà.
Belle fin
et puis de bons moments d'écriture.
Merci.
They smiled like me and you, but let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye.